Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et motbakh na.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Je suis séparée depuis 13 ans. Je rentre à la maison, on avait une maison avec le garage. Je trouvais que toutes les choses ne sont pas dans la maison. Toutes les choses sont parties. Ces voitures, il avait trois voitures, ces voitures ne sont pas là. J'ai appelé la police. J'ai appelé la police pour dire, je pense qu'on nous a volé, mais la police, ils ne sont pas venus, mais ils ont dit, est-ce que les portes sont défoncées? J'ai dit non, les portes ne sont pas défoncées. Le garage, il est fermé. On m'a dit, madame, sûrement que le premier suspect, c'est votre mari. Mais calmez-vous, fermez la maison, il va venir. Et non, il n'est pas venu, il était parti en Afrique. Sans rien dire. Alors, c'est comme ça qu'il est parti. Depuis ce temps, ça fait 13 ans, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas revu. Mais mes enfants sont grandis maintenant. J'ai une fille qui est en stage en Jamaïque. J'ai une deuxième qui est tentée de finir ses études universitaires. J'ai ma troisième fille aussi qui vient de commencer l'université. Et j'ai mon dernier qui est au collège. Bonjour, je m'appelle Jeanne-Françoise Densangani-Mukama. Bienvenue dans le parcours Balado Cuisine ton quartier, à la ville d'Anjou. Moi, je suis née dans la ville de Rumeza. Rumeza, c'est dans la province de Bururi, en Afrique, précisément au Burundi. Je suis née de deux parents de la classe moyenne. Ma mère a été travailleuse sociale. Mon père était directeur d'une école. Je suis née en 1970. Malheureusement, en 1972, mon père a été décédé à cause des problèmes politiques du pays. Vous comprendrez que je ne connais pas mon père. Je n'ai pas d'image. Et ça, c'est très, très, très dur. Ça a été très dur pour nous parce que ma mère a été obligée de nous amener chez ma grand-mère parce qu'on était trois à ce moment-là. Quand même, on a pu faire les études, elle a tout fait pour pouvoir nous envoyer à l'école malgré qu'elle était veuve. Et elle a décidé pour nous, elle s'est sacrifiée, elle n'a pas fait, elle ne se s'est pas mariée. Donc, elle a continué à travailler jusqu'à ce qu'on grandisse. Quand j'ai fini mes études, je suis tombée en amour avec un monsieur qui voulait me marier, qui était mon professeur de français à cette époque. Mais je n'ai pas pu me marier avec cette personne parce qu'il y avait quelqu'un que ma mère avait pris soin depuis l'âge de 12 ans pour pouvoir venir travailler chez nous parce que aussi, celui-ci aussi, il était orphelin de père. Mais comme ma mère tenait à l'école, son petit garçon travaillait à la maison. Mais il a envoyé à l'école comme après avoir fini les travaux de la maison. Et puis il a grandi, puis c'était un garçon brillant, il a continué ses études aussi. Et puis quand il a fini ses études, ma mère voulait que je me marie avec son monsieur. On a une différence de 12 ans. Mais moi, je ne voulais pas. Comme je ne voulais pas, mais ma mère, comme elle nous a élevés toute seule, on devrait respecter qu'est-ce qu'elle nous a... Mais c'était comme reconnaître les sacrifices qu'elle a fait. Et on devrait respecter. Et elle nous disait que si, parmi ses enfants, si on ne respectait pas, elle va nous renier parce que c'est comme ça chez nous que ça se fait. Ça vient toujours me chercher parce que ce mariage, pour que ça marche, c'est qu'on a fait comme un truc. Ma mère m'a envoyé chez son monsieur qui travaillait comme dans une autre province. Elle m'a dit, va voir telle personne et puis tu reviendras le lendemain. Je suis partie. Et mais comme je le connaissais très bien, c'était comme... Je suis partie pour faire aller-retour. Mais rendu là-bas, il a dit, non, tu ne quittes pas d'ici. Comment ça, je ne quitte pas d'ici? Il a dit, non, ce n'est pas grave, tu es ma soeur, blablabla. Oui, effectivement, je reprenais quand même mon frère. Le soir, lui, il habitait avec d'autres jeunes hommes. Et puis, on l'a niaisé, il a dit, oh, mais ta soeur, elle est belle, parce qu'il avait dit que je suis sa soeur. Elle est belle, on va la prendre en mariage. Mais elle dit non, elle est encore jeune, blablabla. Donc, je suis dormie là-bas, mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai été violée. Il m'a resté quelques mois pour finir mes études. Et c'est ça. Je suis tombée enceinte sur le champ. Avant de retourner chez nous, parce que le lendemain, je n'ai pas pu partir. Parce que j'étais vraiment... j'étais fatiguée. C'est pas juste fatiguée, parce que il m'a détruit. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas manger. J'étais pas... Bah, en tout cas. Moi, je ne savais même pas si c'est quoi la grossesse et tout ce que vous voulez. Parce que chez nous, en tant que fille, on ne peut pas faire des relations sexuelles avant le mariage. Tu finis d'abord tes études et tu te maries. Ça, je ne connaissais même pas. Là, on ne parlait pas de tomber enceinte. C'était extrêmement, extrêmement rare. Je commence à vomir à l'école. Mais mes professeurs, quand même, c'est des gens qui connaissent c'est quoi la grossesse. Puis, j'appelle c'est ça la personne qui a fait ça. Je l'appelle, je lui dis, écoute, je pense que je suis enceinte. Et puis, il m'a dit, c'est pas un problème. Et de toutes les façons, le mariage, c'est le 31 août. Déjà, tout est déjà planifié derrière mon dos. Quand on a fini les examens, je suis rentrée voir mon oncle, qui a une femme médecin à la capitale. Puis je l'explique, je dis voilà. Puis comme mon oncle savait quand même que je n'étais pas une délinquante, il a pris soin de m'écouter et de faire tout son possible pour se faire avorter. Donc il a parlé avec sa femme, qui était médecin, mais l'information a fait fuite et tombée dans l'oreille de son monsieur. Et puis, le monsieur, il est venu, on était à table à midi, il a dit, j'ai compris que vous allez faire avorter mon enfant. Si il se fait avorter, sachez que je vais vous amener en prison. Parce que l'avortement chez nous, ce n'est pas permis, du tout. Il y en a, c'est des gens qui le font, mais c'est caché. Ça ne se fait pas. Donc, on a eu peur de le faire. Non seulement ça, il a contacté ma mère, sa famille, tout est organisé, tout. Alors, quand c'est fait comme ça, je ne pouvais pas me faire avorter. J'étais comme, il faut que j'accepte ce mariage-là, qui a eu lieu à la date qui était prévue. La guerre, encore une fois, a éclaté en 93. Il fallait que je quitte le pays d'urgence. Donc, il m'a amené dans son pays où il travaillait, en Égypte. Il travaillait en Égypte. La langue, l'arabe, oublie ça. Chez nous... on parlait le kirundi, un peu de français qu'on apprend à l'école. L'anglais oublie ça. Donc, en Égypte, c'était soit l'arabe ou l'anglais. C'était au Caire. Je n'avais pas ces langues-là. Et de toutes les façons, j'allais accoucher le deuxième enfant. Donc, pendant au moins 3 ans, j'étais enfermée dans la maison. Parce que je ne pouvais pas sortir dans ce pays-là, parce qu'on disait que... les femmes ne sont pas autorisées de sortir toutes seules sans être accompagnées parce que la culture du pays, comme c'est un pays musulman, c'est ça qu'on disait. Donc, je ne pouvais pas sortir. Et non seulement ça, je ne pouvais pas sortir à cause du problème de langue. Donc, au pays, ce n'est pas encore stable. Au Burundi, ce n'est pas encore stable. Et puis, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ici? On fait quoi? Après ça, on a regardé d'immigrer dans d'autres pays. Et puis, on avait déposé en Australie, au Canada, en France, aux États-Unis, mais le Canada et l'Australie nous ont répondu en même temps. Mais en regardant les opportunités, on a décidé de venir ici. Parce qu'à ce moment, moi, j'avais 27 ans. Le critère qui était important au niveau du Canada, c'était il faut que la personne soit jeune, que j'avais la jeunesse quand même. Lui, moi, j'avais 27 ans, lui avait 29 ans. Notre neuf. Alors, c'était comme on remplit ces critères-là et puis on avait des enfants. Donc, on a décidé de venir ici au Canada. Puis, quand on est arrivé ici au Canada, la guerre a commencé avec ce monsieur-là. À cause de la guerre, ils ont continué à payer le monde qui ont fui parce que c'était pas en démission, c'est comme tu fuis, mais tu vas retourner au travail. Et puis, on a continué à me payer pendant toutes ces années. Et À un certain moment, je lui ai dit, mais l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Peut-être on peut l'utiliser ici, ou on va aider la famille et tout ce que tu veux. Il avait tout vidé le compte. Je n'ai jamais su qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent. Je n'ai jamais su. À ce moment, j'ai commencé à voir que quand même, c'est pas de confiance. Pour pouvoir partir prendre l'autobus, il fallait que je le supplie pour me donner un billet d'autobus. Et pourtant, il avait vidé mon compte. Et pourtant, en tout cas, il fallait que je supplie. Mais en cet moment, beaucoup de places, je les ai fait à pied, beaucoup de places. Et je marchais ici à Montréal. Jusqu'à ce que je découvre quand même le Carrefour des Femmes d'Anjou. J'ai découvert le Carrefour des Femmes d'Anjou par le flambeau de l'Est. Je m'ennuyais et puis je regardais par les envoyés, les circulaires comme maintenant. Puis je vois le journal là-dedans. Mais par curiosité, je regarde et je dis, ah, il y a un organisme pour les femmes. C'est comme ça que j'ai découvert. Et puis je suis venue voir qu'est-ce qui se passe dans cet organisme-là. Ils m'ont ouvert à bras ouverts. Et puis j'ai commencé d'abord à apprendre le français parce que je n'avais pas zéro français. Après ça, j'ai commencé mes études aussi, reprendre mes études, parce que les études que j'ai faites au pays n'ont pas été reconnues. Il fallait que je me batte pour pouvoir retourner à l'école, parce que mon mari ne voulait pas que j'aille prendre les études. Il avait peur que je sois autonome. Quand il était encore au pays, c'est lui qui allait encaisser mon salaire. Et à ce moment, j'ai demandé l'argent pour acheter la crème. Pour le resto, oublie ça. Il n'y avait pas de restaurant, je ne pouvais pas dire. Alors, c'est ça. Mais malgré tout ça, il fallait que je poursuive les études quand même. Ça, il n'a pas vraiment accepté ça du tout. Des fois, que, par exemple, quand les enfants sont à l'école ou à la garderie et que je suis à l'université, parce que j'ai fait l'université à l'UQAM, ils disaient, débrouille-toi avec tes affaires. Parce que je vous ai parlé de deux enfants, mais ici au Canada, j'ai fait deux, quatre. Donc, j'en ai quatre enfants. Que j'ai fait tout ça avec les études. Mais lui, il était comme manger à la maison. J'étais à l'université, à l'université. Il fallait que je vienne cuisiner parce qu'il dit, c'est ton problème et tu es une femme. Tu dois venir me cuisiner. Les enfants, vous savez, il y a des travaux d'équipe ici. Si je le fallait que je le fasse le soir, il fallait que je m'organise pour pouvoir trouver une voisine, garder mes enfants, nos enfants, pour que je puisse faire le travail de groupe. Mais malgré tout ça, je m'en suis sortie, j'ai persévéré jusqu'à ce que je suis rendue, parce que j'ai fait mon stage au Carrefour des Femmes d'Anjou, de faire des études. Après ça, il y a un poste qui s'est ouvert au Carrefour. J'ai eu ce poste comme intervenante à l'accueil, parce que les études que j'ai faites, j'avais toujours option relation d'aide. C'est ça qui m'a amenée dans cet organisme. Moi, j'ai fait les communications, mais c'est surtout la relation d'aide qui m'a amenée ici. Ça fait beaucoup de temps que je suis ici, dans cet organisme. J'ai travaillé comme intervenante pendant 6 ans. J'ai été coordinatrice de l'organisme pendant 7 ans. Et présentement, je suis intervenante responsable des bénévoles de la garderie et la vue d'ensemble de l'organisme parce que je le connais. Ma vue va très bien et puis j'ai rencontré des femmes au Carrefour des Femmes d'Anjou extraordinaires qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont expliqué comment la société, parce que c'est vrai que j'avais une curiosité moi-même de comprendre comment m'intégrer dans cette société canadienne. Mais j'ai eu l'appui de mes collègues, certaines qui ont pris la retraite. Alors, elles m'ont donné des outils, je posais des questions. Par exemple, il y a des choses écritures qu'on ne comprend pas. Nous, par exemple, on ne peut pas parler en regardant la personne parler dans les yeux. Et moi, à chaque fois, quand je parlais, je baissais les yeux, puis on me disait, mais pourquoi tu ne nous regardais pas? Et moi, je ne savais pas. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et au niveau du Carrefour des Femmes d'Anjou. D'ailleurs, tout ce que je connais de l'intégration, c'est vraiment au niveau du Carrefour des Femmes d'Anjou. Mon identité, c'est sûr que je me suis intégrée au niveau de la société québécoise. Je pense que dans les prochaines années à venir, je vais dire québécoise pure laine. Non, je ne peux pas acheter ça, mais bon, quand même. C'est une façon de rigoler. Non, je suis quand même très intégrée. Je connais très bien même la langue française et je l'ai apprise. Je ne peux pas dire que je la maîtrise, mais personne ne peut pas me vendre en français. Je comprends tout. J'écris très bien aussi. Donc, oui, je me suis très bien intégrée. Mes enfants, c'est des Canadiennes et des Québécoises. Même des fois, quand les gens appellent chez nous, ils disent « Ah, tu habites avec des Québécois à la maison ?» Non, c'est mes enfants. Ils sont appris ici, comment parler. Moi, je garde mon accent quand même un peu africain. Je n'aimerais pas que mes enfants aillent vivre au Burundi si j'ai le pouvoir, parce que maintenant, c'est des personnes quand même majoritaires, c'est des adultes. S'ils décident d'aller vivre là-bas, c'est leur choix. Mais moi, je ne les encouragerais pas d'aller vivre dans ce pays, mais aller visiter pour comprendre leurs origines, c'est très bien, je n'ai aucune objection. Mais aller vivre là-bas, je ne les encouragerais pas. Parce que moi, j'ai le goût amer de ce pays-là. J'ai perdu mon père, je ne l'ai pas vu. Je me suis mariée par choix. Je ne vois pas qu'est-ce qui m'a tirée là-bas. Ma mère est toujours vivante, mais j'ai fait la paix avec elle. J'ai décidé de faire la paix avec elle depuis une vingtaine d'années. Ma mère peut partir ou je peux partir n'importe quel moment. Je ne veux pas que je vais dire, oh, j'ai dû pardonner à son vivant. Je ne l'ai pas dit clairement, mais par mes gestes, j'ai pardonné ça. Je n'ai pas de rancune envers ma mère. Merci de votre écoute. Alors, je vous souhaite l'épanouissement de ce que vous êtes en train de faire, parce que ça nous permet, pour nous qui témoignons notre parcours, c'est une libération, c'est une façon de se libérer. J'espère que ça va permettre aux gens aussi de voir que malgré les difficultés qu'on peut avancer, qu'on peut arriver quand même à certains objectifs de la vie.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.